Bonjour! Bienvenue au club
de lecture
de Longo.
Bibliothèque Prévert.
Bonjour et bienvenue à tous à la bibliothèque Jacques Prévert de Longo et bienvenue dans ce cinquième club de lecture. Donc aujourd'hui on est en assez petit comité. Je vais commencer avec une série que j'avais déjà présentée il y a un moment, mais je me suis amusé à relire et à un peu plus étudier, parce que j'avais fait vraiment une étude assez, assez rapide. Et là, je me suis un petit peu amusé à le faire un petit peu plus poussé. Donc c'est la série des Persona, donc avec Persona 3, Persona 4 et Persona 5. Et donc tout d'abord, on va commencer avec Persona 3. Donc, de base, Persona 3, c'est un jeu de rôle sorti en 2008 en Europe, qui va connaître une extension du nom de Persona 3 FES en 2008 elle aussi, et une version portable en 2011, et qui va ressortir sur console actuelle en 2023, c'était le 19 janvier 2023. Donc c'est quelque chose d'assez récent. Donc on va suivre l'histoire de Minato Arisato, qui 10 ans après la mort de ses parents, va retourner dans sa ville natale où il va intégrer un nouveau lycée. Et à son arrivée, il va être témoin de phénomènes étranges. Il va s'apercevoir que les occupants du dortoir auquel il est assigné, ils sont assez spéciaux. Il va apprendre qu'il existe une 25e heure dans la journée, qui est nommée heure sombre, et qui est perçue uniquement par certaines personnes à minuit. Donc ça va se situer entre le jour actuel et le jour suivant. Et durant cette heure, le lycée qu'il intègre, il va être remplacé par une énorme tour qui va être nommée le Tartare, où va résider des ombres. Et pour vaincre ces ombres et éviter l'inévitable, Minato et puis les autres élèves du dortoir, ils vont faire appel à leur persona. Donc je vais expliquer brièvement ce que c'est une persona. C'est quelque chose de... c'est une entité qui reflète l'âme de son détenteur. Et c'est une représentation de sa personnalité. Et ça fait référence à la persona, donc le masque social, que parle Carl Gustav Jung dans sa psychologie analytique. Donc la psychologie analytique, elle propose de faire l'investigation de l'inconscient et de l'âme, entre guillemets, c'est-à-dire la psyché individuelle. Et donc chaque persona que va avoir un personnage va être lié à une arcane majeure du tarot divinatoire. Donc le tarot divinatoire, c'est un art divinatoire qui utilise les cartes de tarot de Marseille sous d'autres formes, comme le tarot des anges ou le tarot des Égyptiens. Donc c'est une forme de cartomancie. Et donc il est important de savoir que chaque persona est issu de personnages mythologiques, donc de la mythologie grecque, celtique, nordique, hindoue, chinoise, japonaise, arabe, mésopotamienne, etc. Et donc le scénario de Persona 3, il s'inspire beaucoup de la psychologie en général, mais comme je l'ai dit, plus particulièrement de la psychologie analytique. Il exploite aussi le thème d'inconscient collectif, qui est étudié par Carl Gustav Jung. Et Persona 3, il fait, comme je l'ai dit avant, beaucoup de références à la mythologie, mais plus en particulièrement avec la mythologie grecque, parce qu'il y a des noms de Persona, donc il y a Orpheus, Hermès, Athéna, Cerberus, mais il y a aussi à travers le Tartare, donc c'est un lieu des enfers dans la mythologie grecque, et il y a la présence de Nyx, qui est la déesse de la nuit, comme ça se passe beaucoup dans le thème de la nuit. Voilà, donc ça c'est Persona 3. Ensuite, il n'y a pas vraiment une suite, parce que chaque jeu et chaque manga n'est pas vraiment lié. Donc pareil, Persona 4, c'est un jeu de rôle qui est sorti un an après, donc en 2009, un an après Persona 3, et qui va connaître un portage sur console portable en 2013, et en 2023 sur les nouvelles consoles, pareil le 19 janvier. Et donc Persona 4, donc on va suivre l'histoire de Yu Narukami, donc le protagoniste, qui est lycéen, et qui va se retrouver contraint de vivre chez son oncle dans une petite ville rurale, donc une ville fictive du Japon. Et cette petite ville, elle va être secouée par des événements qui sont inquiétants. C'est-à-dire que chaque nuit de brouillard, il va y avoir un meurtre qui va être effectué. Et les victimes de ces meurtres, elles vont être retrouvées perchées sur les antennes de télévision de la ville. Donc c'est pas joyeux. Et donc la police, bien évidemment, elle va être dépassée par les événements, puisqu'ils savent pas qui fait ça. Et donc peu à peu, le protagoniste, donc qui va faire sa vie dans cette petite ville rurale, il va découvrir qu'il existe un monde parallèle. Donc dans Persona, il y a beaucoup ce thème de monde parallèle. Et ce monde parallèle, il va se trouver de l'autre côté des écrans de télévision. Donc, et qu'il y a seules quelques personnes qui ont le pouvoir d'y accéder. Et il va s'y rendre, donc le protagoniste va s'y rendre accidentellement avec quelques-uns de ses amis. Et ils vont découvrir que les victimes, elles vont apparaître systématiquement sur la chaîne de minuit, donc c'est son nom en français, sinon c'est Midnight Channel, et avant de disparaître. C'est-à-dire qu'avant de disparaître, va y avoir rapidement leur visage qui va s'afficher sur l'écran de télévision. Et donc ces victimes, qui sont retrouvées bien évidemment prisonnières dans l'autre monde, elles vont faire face à un autre eux-mêmes, qui représente une face cachée de leur personnalité qui va bien souvent être embarrassante pour eux. Et on va suivre au fur et à mesure donc les aventures au sein de cette chaîne de minuit et découvrir pourquoi il y a ces meurtres et ainsi de suite. Persona 3 était centré sur le thème de la mort, donc avec le Tartare, c'est un lieu des enfers. Celui de Persona 4, il est basé sur la vérité et l'acceptation de soi-même. Donc Persona 3, lui, s'inspirait de la mythologie grecque, alors que Persona 4, lui, va s'inspirer de la mythologie japonaise avec, pareil, le nom des personas. C'est-à-dire qu'il y a Izanagi, qui est le co-créateur du monde dans la mythologie japonaise. Il y a, alors, la prononciation va peut-être laisser à désirer, Amaterasu, donc qui est la déesse du soleil, de la lumière et du ciel, et ainsi de suite. Et donc, pour terminer, on va terminer avec Persona 5, qui est mon adaptation préférée de la série des Persona. Donc c'est là aussi un jeu de rôle qui est sorti en 2017. En 2019, il va ressortir. Et il va ressortir en 2022. Donc la dernière sortie que j'ai, dernier exemplaire que j'ai là, c'est 22 octobre 2022. Donc c'est une version un peu plus améliorée et qui va comporter un trimestre supplémentaire, donc une histoire en plus. Pour ce qui est de Persona 5, je vais installer la trame parce qu'elle est assez complexe. L'univers de Persona 5, il va alterner entre deux mondes, comme les anciens opus, le monde réel et le métavers. Donc le métavers, c'est un univers parallèle où la véritable nature de la psychologie d'une personne s'y incarne et les désirs profonds se matérialisent sous la forme de trésors. C'est vraiment de la psychologie assez poussée. Et donc il y a quelque chose qui s'appelle le vol de trésors dans le métavers qui va provoquer une métanoïa qui va permettre d'enlever à la vraie personne ses désirs. Et cette personne qui va être ôtée de ses désirs, elle va se pousser à se dénoncer publiquement de tous les crimes ou choses qu'elle a pu faire et qu'elle n'a pas avoué. Au-delà de ces éléments-là, il y a un des thèmes principaux qui est l'abus de pouvoir, mais aussi la liberté. Parce qu'en effet, donc les protagonistes du manga et du jeu vont arracher des masques pour invoquer leur persona. Masques qui sont apparus après qu'ils aient refusé la vision que la société avait sur eux. Donc c'est des adolescents qui sont, on va pas dire un peu persécutés, mais qui n'ont pas la même vision de la société que ce que les gens ont. Ils vont retrouver c'est interprété comme s'ils voulaient retrouver la liberté de penser et de s'opposer à la société. Et donc l'univers de Persona 5 se base lui aussi, comme les deux autres opus, sur les travaux de Carl Jung, et précisément sur la théorie du persona et du moi, que je vais essayer d'expliquer assez rapidement parce que c'est quelque chose de vraiment complexe. Donc la persona est, selon cette théorie, le masque qu'on porte dans la société, la personnalité que l'on veut refléter auprès des autres. Néanmoins, elle ne représente pas votre fort intérieur. Et donc le but dans les personas, c'est de libérer ce fort intérieur que l'on est censé connaître qu'inconsciemment et assumer ce que l'on est vraiment dans la société et faire tomber le masque, comme il s'enlève un masque. Et donc j'avais parlé d'abus de pouvoir, et donc il y a différents antagonistes au fur et à mesure du manga et du jeu. Et le premier antagoniste, c'est un professeur de sport ex-médaillé olympique qui fait de l'abus de pouvoir sur ses élèves, donc de l'abus de pouvoir, de l'abus psychologique aussi. Et ça se voit pas vraiment. Et donc dans le monde alternatif, donc dans le métavers, sa représentation, c'est comme si c'était un roi. Donc il a l'abus de pouvoir, il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Et donc pour résumer brièvement Persona 5, parce que c'est vraiment quelque chose de complexe, c'est donc l'histoire d'un lycéen, donc Ren Amamiya, qui va être accusé à tort d'une agression, qui va être condamné par un homme politique qui a du pouvoir, bien évidemment. Donc il va faire valoir ce pouvoir pour le condamner. Et donc ce lycéen va être envoyé en probation d'un an. Il va déménager à Tokyo. Et Tokyo, à ce moment-là, va être frappé par une vague de personnes qui souffrent de fermeture mentale. Donc ils sont vraiment dans leur monde et ça va provoquer des accidents mortels. Donc là, c'est pas toujours très 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 gai, mais... Et donc, ce lycéen, pour aller dans son lycée où sa candidature est acceptée, il faut qu'il réussisse sa scolarité pour qu'il obtienne sa liberté conditionnelle. Et donc, il y a un tenancier de café qui va accepter de le loger le temps que sa probation se termine, qu'il aille au lycée et qu'il fasse ce qu'il a à faire. Cependant, le premier jour au lycée va être un peu spécial. Il va se rendre compte que le bâtiment où se trouve le lycée va être remplacé par un château. Et donc ce château, c'est le métavers. Donc c'est pas la réalité. Et dans ce château va résider des ombres. Et c'est là où le protagoniste va réveiller sa persona. Et va être capable de venir à bout de ses ombres et ainsi découvrir, avec l'aide de ses amis, donc les mystères de ce château qui sont nommés des palais, mais qui s'apparentent ne pas être le seul palais dans tout Tokyo ou tout le Japon normalement. Voilà, donc c'est l'univers de Persona, c'est quelque chose qui traite énormément de psychologie. Et c'est sympa à lire, c'est des séries assez courtes. Je sais que pour... Persona 3, c'est fini en 11 tomes. Et Persona 4, c'est en 13 tomes. Ouais. Et Persona 5, c'est pas encore écrit. Mais normalement, on est pas loin de la fin dans les mangas, je crois. Donc voilà.
C'est le 5 que t'as préféré ?
Ouais, de toute façon, j'ai fait le jeu. Il y a tout qui va avec. Dans le jeu, il y a les musiques qui sont... qui sont assez prenantes, même dans les autres jeux, c'est un élément assez important du jeu.
Ouais, ça te met dans l'univers.
Bah, ils ont même fait des jeux de rythme tellement que les musiques sont donc voilà.
Ouais, il y a tout un univers.
Il y a tout un univers là-dessus, mais voilà.
Et du coup, le jeu et le livre, c'est complémentaire.
C'est quasiment la même chose. Il y a juste certains éléments qui sont qui sont pas vraiment traités comme ils sont traités. Parce qu'au début de Persona 5, ça se passe dans un casino où le protagoniste va se faire arrêter. Et là, on commence directement dans le train. où il est déjà dans Tokyo.
Okay.
Et voilà. C'est un univers à découvrir.
T'as fait le jeu avant de lire les bouquins ?
Ouais.
Dans ce sens-là.
Bah, les mangas sont sortis il y a 2017 au Japon, mais chez nous, ça doit être... je sais plus, mais c'est avant confinement, ça c'est sûr. Mais moi j'avais fait le jeu déjà encore avant. Donc ça fait un lien. Hein.
Ouais.
Mais voilà. Et comme là ils sont sortis, ça permet de les refaire. Et ils ont sorti les versions améliorées qui rajoutent du contenu en plus pour en apprendre un peu plus. Donc c'est toujours sympa de les refaire. Voilà.
Parler aujourd'hui de pas d'un bouquin en particulier, mais du coup d'une autrice, Valérie Perrin. Donc Valérie Perrin, c'est une autrice française. Elle est née en 67. C'est la partenaire de Claude Lelouch d'ailleurs. Je viens de l'apprendre. Elle a écrit 4 bouquins, donc j'ai lu les 3 premiers, le dernier je n'ai pas encore lu, mais j'ai beaucoup aimé, en fait j'ai lu le premier, et c'était l'un de, je l'ai lu en 2019, c'était l'un des que j'ai préféré de cette année-là, enfin c'était dans mes coups de cœur. Le deuxième, pareil. Le troisième, j'ai bien aimé, un peu en dessous de, après je pense que t'as tellement aimé les premiers que t'en attends beaucoup, et... mais globalement les 3 j'ai vraiment apprécié. Je vais vous parler du premier, le premier que j'ai découvert. Donc ça s'appelle Les Oubliés du Dimanche. Donc déjà par le titre, on sait à peu près. Enfin, Les Oubliés du Dimanche, donc ça représente les personnes âgées, ceux qui attendent la semaine, le week-end, avec impatience pour retrouver, enfin pour avoir enfin une visite. Et certains n'ont même pas cette visite entre guillemets, donc ils passent vraiment leur quotidien seuls. Donc le bouquin est surtout axé sur Justine, c'est une jeune femme de 21 ans. Voilà, on apprend qu'elle a perdu ses parents dans un accident de voiture, et elle vit chez ses grands-parents qui l'ont élevée et son cousin. Donc sa particularité, c'est que elle aime les personnes âgées, elle aime beaucoup passer du temps avec eux. Elle est jeune, mais son quotidien, du coup, c'est avec... elle leur rend visite et elle est aide-soignante. Donc, c'est pas, elle n'a pas choisi ça par défaut, c'est vraiment une vocation. Donc elle passe beaucoup de temps dans cette maison de retraite où elle travaille, et elle va beaucoup se rapprocher d'une centenaire. Et en plus de son travail, elle va prendre le temps de l'écouter. Elles vont se lier d'amitié, elle s'écoute, elle partage beaucoup de choses. Et donc, comme j'aime beaucoup dans certains bouquins, c'est qu'on va faire des allers-retours entre deux histoires et entre deux époques. Hélène, donc la centenaire, va révéler son histoire au fur et à mesure à Justine, l'aide-soignante. Donc elle va lui raconter. Donc on va rebasculer dans les années 30, les années 40. Donc c'est ce que j'aime, les retours, les allers-retours dans le passé. Donc c'était drôle à la fois, et en même temps, donc Hélène, c'est un peu le tabou puisqu'elle a perdu ses parents dans un accident de voiture, elle est élevée par ses grands-parents, mais ses grands-parents ne parlent pas de ses parents, ne parlent pas de son histoire, donc elle essaie de retrouver un petit peu aussi de son histoire, elle essaie de découvrir un peu les secrets de famille. Donc je trouvais ça vraiment sympa. Et puis tu commences et t'as vraiment envie au final de savoir l'histoire. Et même sur la fin, au fur et à mesure, tu penses te dire « Ah tiens, il va se passer ça, ça ». Et puis au final, j'ai quand même été un peu surprise sur la fin. Donc c'est ce que j'ai aussi aimé. Puis le rapport entre les deux personnes, ça a été beaucoup d'humanité. C'était vraiment sympa à lire. Je me suis pas ennuyée. Donc je vais vous parler maintenant du deuxième. Donc le deuxième, c'est un autre registre, ça s'appelle « Changer l'eau des fleurs ». Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en tout cas... Donc « Les Oubliés du Dimanche », je crois que c'était sorti en 2015, mais je ne l'avais pas lu tout de suite. Et « Changer l'eau des fleurs », je ne sais même plus quelle année c'est, ça doit être 2018 peut-être, 2019. Donc c'était... pareil, il a eu pas mal de prix, on en a entendu beaucoup parler par la suite. Donc là, c'est l'histoire de Violette Toussaint. Elle est garde cimetière. C'est assez original. Donc elle vit dans la petite maison sur le côté du cimetière, et donc elle s'en occupe, elle s'occupe de l'entretien. Donc ça fait aussi beaucoup basé sur les relations, où on voit que elle croise pas mal de monde, soit de passage ou les habitués, ou au fur et à mesure elle essaie d'offrir un café aux gens qui passent, etc. Donc beaucoup sur les relations, et au final pas mal de personnes se livrent, et nous au début on sait pas trop en fait l'histoire de Violette, ou comment elle est arrivée ici. Donc au début on va au fur et à mesure essayer un peu comme dans Les Oubliés du Dimanche, où le personnage central, finalement, on ne sait pas beaucoup de choses sur elle. Donc là, au fur et à mesure, on creuse et on découvre ce qui l'a amenée ici. Donc on se dit qu'elle a dû vivre des choses assez dramatiques. Et je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé, parce que sinon, sinon je vais tout vous dévoiler. Mais Mais c'était prenant. Au début, dans mon souvenir, j'avais trouvé que ça avait été un peu long à démarrer. Mais finalement, après, quand t'es dedans, t'as vraiment envie de savoir la fin et de comment elle est arrivée ici. Et puis, au fur et à mesure, t'apprends l'histoire et tu dis, ah oui, enfin, un peu dramatique. Mais sans être dans le pathos. Je vais vous parler ensuite du troisième. Donc le troisième, le titre, ça s'appelle 3. il est sorti, lui, en... Ça doit être 2021, peut-être un truc comme ça, et en poche en 2022. Mais c'est l'histoire de trois personnes qui se rencontrent en CM2, donc c'est des amis d'enfance. Mais très vite, ça devient une relation assez fusionnelle. Donc les trois, ils sont tout le temps ensemble. Ils se promettent de jamais se quitter. Et au final, quand on revient dans le présent, on se dit, bah, elle se présente, elle s'appelle Virginie. Virginie, c'est une quatrième personne qui était à l'école avec eux, mais qui était vraiment en retrait, puisque les trois étaient très fusionnels. Et en fait, on s'aperçoit que les trois, il s'est passé quelque chose, parce qu'ils ne sont plus vraiment ensemble. Et un jour, donc en 2017, ça c'était en 80... dans les années, fin des années 80, où ils étaient ensemble à l'école. Et en 2017, on apprend que dans le hameau où ils ont grandi, il y a une voiture qui est découverte au fond d'un lac. Donc là, ils essaient de découvrir ce qui s'est passé. Et ils partent tous ensemble pour redécouvrir l'intrigue. Donc c'est vrai que, pareil, ça fait des allers-retours dans le passé, donc on se retrouve à leur enfance, on se retrouve aujourd'hui, donc on se demande un peu ce qui s'est passé pour qu'ils s'éloignent. Et c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire toujours un peu avec de l'intrigue. Donc c'était sympa aussi, c'était aussi sympa à lire. Donc je vous le conseille quand même si vous voyez, il m'a pas laissé une grande, une grande trace, mais les deux premiers, c'était vraiment... C'est vraiment les livres que je conseille à des copines quand elles me demandent un petit peu vers qui se tourner, parce qu'au final, on connaît peut-être les deux bouquins, mais le nom de Valérie Perrin, pas forcément ressorti, pas comme par exemple Virginie Grimaldi où tout le monde la conseille, mais celle-ci, ouais, je vous la conseille aussi.
Bon ben on vous remercie, on va conclure ce cinquième club de lecture et on va vous donner rendez-vous le 4 mars pour le prochain club lecture à la bibliothèque de Jacques Prévert à Longo.
À bientôt.
À bientôt. Thank you.
Thank you.